Père, nous voulons te remercier encore pour ta parole ce soir. Merci pour ce peuple. Merci parce que tu illumines les yeux de nos cœurs. Merci parce que tu veux que nous prospérions. Tu veux que nous puissions avoir, Seigneur, faire un excellent voyage dans cette vie. Tu ne veux pas que nous vivions une vie de frustration, une vie de découragement. Mais Seigneur, ce que tu veux, c'est que ton royaume se manifeste à tous égards, au travers de nos vies, pour que nous puissions briller, Seigneur, et montrer que nous avons un grand Dieu qui est capable de changer les pires situations. C'est pourquoi je veux te dire encore merci. Merci parce que tu es dans le business de la transformation des vies. Ta passion, c'est de transformer nos vies. Et notre passion, c'est d'être une bénédiction pour que les vies des autres soient transformées. Merci, mon Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Amen.
Notre texte de référence, 3 Jean 2.
Et
au travers de ce texte de référence dans 3 Jean
2,
eh bien, nous avons découvert quelque chose que Dieu veut que nous soyons et que nous vivions. Et c'est Jean qui s'exprime, qui écrit à Gaius, et il lui dit, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et on a vu que ce verbe prospérer, ça veut dire faire un bon voyage, un excellent voyage. Dieu veut que tu fasses un excellent voyage dans cette vie. Si tu ne fais pas un excellent voyage dans cette vie, ça veut dire qu'apparemment, selon le critère biblique, tu ne prospères pas. Donc il doit y avoir des choses dans ta vie partout, ça doit s'épanouir où Dieu doit manifester son royaume et son influence dans ta vie. Donc Dieu nous appelle à faire cet excellent voyage, donc à prospérer. Alors je vous rappelle que nous avions vu un certain nombre de sujets. Je vous rappelle que vous n'êtes plus propriétaire de votre vie, vous êtes gestionnaire. Un gestionnaire, le propriétaire demande toujours des comptes. La gestion selon ce monde, c'est avoir un salaire et essayer de se débrouiller pour que le propriétaire ne soit pas trop mécontent. La gestion selon Dieu, c'est qu'il y ait une multiplication. Que ce qu'il te confie, tu puisses l'amener à une puissante transformation et l'amener le plus loin possible. Ça fait partie de la prospérité. Malheureusement, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui regardent à ce qu'ils ont, se donnent des excuses, et particulièrement, nous nous focalisons sur les finances. Bien que je vous rappelle que le mot prospérer, le verbe prospérer ne concerne pas seulement les finances. Loin de là. Mais là, nous parlons de finances. Nous avons vu que la position que nous avons par rapport à la parole de Dieu et par rapport aux doctrines de la parole, c'est ce qui va déterminer les dimensions dans lesquelles on va vivre. Donc il est très important de se positionner comme Dieu veut qu'on se positionne. Et les conséquences, c'est que nous allons vivre dans les dimensions divines. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est pour ça que beaucoup sont dans l'échec. Que beaucoup de serviteurs de Dieu aussi sont dans l'échec. Parce qu'ils ne comprennent pas ces principes. Ou ils ne cherchent pas certains à les comprendre. Nous avons vu que Dieu veut que nous ayons un certain regard sur les finances. Et quand nous avons le regard divin sur les finances, les choses deviennent extraordinaires. Maintenant, si nous avons le mauvais regard sur les finances, alors Dieu je veux dire, nous risquons d'avoir des problèmes dans notre vie. Rappelez-vous que nous avons une relation avec l'argent. Et cette relation avec l'argent va déterminer notre position, donc la dimension dans laquelle on va vivre. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. L'argent n'est qu'un outil. Un outil que nous devons utiliser pour le royaume de Dieu. Bien sûr, tu en as besoin pour vivre, tu en as besoin pour être épanoui. Rappelle-toi qu'un pauvre ne peut pas être heureux. Pourquoi? Parce que quand on est dans le manque, on a faim, on n'a pas de place se soigner, on est chassé d'où on vit, nos enfants sont chassés de l'école, c'est une humiliation. La pauvreté représente une humiliation. Et c'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on soit pauvre. Et si on est dans la pauvreté, Dieu veut nous sortir de cet état. Et c'est pour ça que nous devons apprendre. Donc nous avons vu certains clichés. Par exemple, il y a des gens qui disent, oui, il y a des chrétiens, au début ils n'avaient pas beaucoup d'argent et après ils ont rétrogradé.
D'autres
sont tombés dans l'orgueil. Et c'est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas parce que nous avons des mauvais exemples
que,
comme on dit en anglais, on doit jeter l'eau du bain avec le bébé une fois qu'on a lavé le bébé.
C'est-à-dire
qu'on doit tout jeter en même temps parce qu'on dit, ah, on a des mauvais exemples ici. Je vous ai montré par exemple, il y a des gens qui parlent en langue et qui sont ultra charnels
et
qui créent beaucoup d'histoires dans le corps de Christ, mais ils sont là. Et c'est pas pour ça qu'il faut dire, ah, tout ce qui est parlé en langue et baptême du Saint-Esprit, bon, c'est pas bien parce que celui-ci fait des histoires. Non, nous devons apprendre à retenir ce qui est bon.
Mais
il y a un grand message sur les finances dans la parole de Dieu que nous devons appliquer parce que Satan sait très bien une chose. Si le peuple de Dieu détient des richesses, ça veut dire que le peuple de Dieu domine. Parce que l'argent a une puissance, un pouvoir. Et c'est pas le seul pouvoir qu'on peut avoir, mais l'argent a un pouvoir. Et il faut que l'argent soit dans les mains des chrétiens. Parce que sinon c'est eux qui se font dominer. Et alors ils sont en train de prier toutes les petites prières possibles et imaginables. Parce que ni plus ni moins ils ne prennent pas possession de leur territoire. Donc la Bible est très claire là-dessus. Maintenant il faut faire attention avec la relation, avec notre regard, donc la relation que nous avons avec l'argent. Donc je vous ai montré un certain nombre de choses et on va continuer, et souvent je vous montre le regard du religieux. Alors souvent les mentalités, on a vu dans 2 Corinthiens 10, ça je vais revenir là-dessus parce que 2 Corinthiens 10, nous avons des forteresses, nous avons des mentalités. Nous avons tous un arrière-plan spirituel, de mentalité, toutes sortes de choses qu'on pense et puis qu'on pense être vrai après tout, qui ont été forgées par notre éducation. Donc, les gens qui nous ont élevés, que ce soit nos parents, que ce soit d'autres personnes, l'école dans laquelle on a été, des professeurs peut-être qui nous ont marqués, des livres qu'on a lus qui nous ont influencés, toutes sortes de choses qui ont fait qu'on croit certaines choses, on a certaines façons de penser. Et certaines de ces façons de penser sont bonnes, d'autres sont très mauvaises. Et dans le christianisme, le courant de pensée, et je dis satanique, c'est que le chrétien doit être pauvre parce que Jésus était pauvre. Ça, c'est quelque chose qui est très ancré dans les mentalités. Et vous pouvez commencer à prêcher sur la prospérité, les premiers boucliers qui sortiront. Jésus était pauvre. Donc, nous devons être pauvres. Deuxième bouclier, c'est pauvreté égale humilité. Troisième bouclier, c'est argent égale orgueil. Et là, on voit que ce sont des mentalités.
Ah, ça, tu vois, on a quoi,
et je vous ai montré que Dieu est le propriétaire de la terre. Que Satan a volé la gestion à Adam et Ève, à qui Dieu avait donné la gestion de la terre. Donc, ça, on sait qu'on a un mauvais gestionnaire aujourd'hui sur la terre. C'est le diable. Il a récupéré ça, nous l'avons vu. Donc, nous, nous sommes le peuple de Dieu. Et nous devons récupérer la gestion. Pourquoi faire ? Non pas parce que nous resterons avec des maisons ou tout, quoi que ce soit sur la terre, parce que nous partirons de la terre pour un temps.
Et
c'est pas pour amasser des richesses. C'est pour servir le royaume. Et au travers de ça, montrer qui est notre Dieu. Parce que Dieu n'est pas n'importe qui. C'est le plus grand propriétaire de l'univers. Et tu es son fils et sa fille. Donc, il y a des mentalités dont il va falloir que tu te débarrasses. C'est ce que Paul disait, je vous le rappelle, dans 2 Corinthiens 10, où il nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc ces mentalités que nous avons souvent forgées par le monde et qui peuvent paraître très religieuses ou spirituelles entre guillemets. Souvent il va falloir les briser dans nos vies. Parce que c'est elles qui attirent ce que nous sommes. Rappelez-vous qu'il y a un proverbe qui nous dit, nous l'avons étudié il y a quelques dimanches. Un homme est le reflet de ce qu'il pense. Réfléchis-y régulièrement à ça. Pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Dis-moi, parce que tu penses comme ça. Tu ne peux pas agir et dire quelque chose que tu n'as pas pensé d'abord. Donc d'abord, ça s'est passé dans ta mentalité. Et nous avons tellement de mentalités qui ne sont pas scripturaires qu'il faut les changer parce que ce sont des forteresses. Des forteresses, c'est-à-dire des murs immenses, imbrisables. Qui s'oppose à quoi ? La connaissance de Dieu. Donc, à ce que Dieu puisse se manifester quelque part. Dans différents domaines. C'est exactement ce que Paul nous dit ici. Donc, ces choses-là, il faut les changer. Jésus était-il pauvre ? Nous avons vu que non. Sa naissance a été entourée de richesses. Avec les rois mages. Et c'est grâce à cela que sa famille a pu vivre alors qu'ils étaient exilés, réfugiés. Alors qu'on en voulait au bébé. Parce que le roi Hérode était fâché de savoir que les rois mages étaient partis divinement d'ailleurs et n'étaient pas venus le revoir pour aller soi-disant adorer Jésus. Rappelez-vous, Jésus dit dans Luc 6:20, heureux vous les pauvres. Donc il ne s'est pas déclaré nous les pauvres. On a vu que le ministère de Jésus était soutenu par des femmes riches. On a vu que le trésorier du ministère de Jésus, c'était Judas. Mais rien qu'un petit regard entre Judas et Jésus, et les disciples concluaient qu'il fallait soit donner quelque chose aux pauvres, soit acheter des choses pour la fête. On pourrait prendre d'autres exemples où il y a à un moment, on a cassé, il y a une femme qui est venue adorer Jésus avec un parfum de grand prix. Qui a offert quelque chose de grand prix. À l'époque, le parfum qu'on achetait et qu'on fermait, c'était comme mettre de l'argent de côté. C'était comme aujourd'hui acheter des lingots d'or et les mettre dans un dans un coffre.
Icyo giye gufata ibintu mota neza imibavu wasanga ari nk'ukubika amafaranga, wasanga ari nk'ugufata inzahabu ukazibika ahantu ukabubitsa amafaranga kuri bo.
Les parfums de grand prix, ça se revendait quand on avait besoin d'argent. C'est une sorte d'investissement qu'on mettait de côté et au moment où on avait un besoin d'argent, on revendait ça. Judas était offensé, mais Jésus n'était pas offensé qu'on casse ce parfum de grand prix et qu'on le mette dans toute l'atmosphère où ils étaient. Alors, nous avons vu la dernière fois un verset qui est dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Et là, nous l'avons lu avec les lunettes de la religion. Maintenant, nous allons le lire avec les lunettes de la vraie spiritualité.
Et
je vous rappelle qu'au verset 9 de 2 Corinthiens 8, si nous le lisons bien religieusement, on va le relire bien religieusement. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre matériellement, de riche spirituellement qu'il était, afin que par sa pauvreté matérielle, vous soyez enrichis spirituellement.
Kuko ngo muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo ngo yuko naho yari umutunzi mu bifadika yahindutse umworo mu bifadika ku bwanyu kugira ngo ubworo bwiwe mu bifadika bubatungishe mwebwe mu by'impwemo.
Ça c'est les religieux qui adaptent.
Abona abanyedini usanga babivuga gutyo.
Mais là soyons clairs.
Ariko reka tubitomore.
Chapitre 8 et chapitre 9, je vous ai dit on parle d'argent, de finance.
Ndabibukije igice cha 8 ariko no bakabiri n'ici 9 bavuga
iby'amafaranga. Donc du début jusqu'à la fin on parle de finance.
Kuva mu ntango gushika ku iherezo bavuga iby'ibifadika
iby'amafaranga. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre financièrement, de riche financièrement qu'il était, afin que par sa pauvreté matérielle, vous soyez enrichi
matériellement.
Alors ici, on voit apparemment il y a une contradiction. Vous savez, c'est comme si je vous enseignais sur le parler en langue. Quand je commence souvent à enseigner sur le baptême du Saint-Esprit et que tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit parlent en
langue,
les gens d'un seul coup disent « Ah oui, mais il y a un verset qui dit « Tous parlent-ils en langue ?»
Non.
Et ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et on prend un morceau de verset et on sort de son contexte. Et souvent, c'est le problème des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Pour le parler en langue, on peut parler soit de la prière en langue issue du baptême du Saint-Esprit. Mais si vous étudiez l'Écriture, il existe aussi un don spirituel selon la volonté de l'Esprit qui est le parler de diverses langues. Et quand on compare les deux, on a l'impression que Jésus contredit ce que Paul dit ou Paul contredit Jésus. Puisque Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Et Paul a l'air de dire, tous parlent-ils en langue? Non. On a l'impression qu'il y a une contradiction. Ou alors on parle de deux choses différentes.
Ben
oui, on parle de deux choses différentes. Et ici, c'est la même chose. Nous avons vu que Jésus ne s'est jamais considéré comme pauvre. Il n'a pas dit « Heureux nous, les pauvres ». Il a dit « Heureux vous, les pauvres ». En s'adressant à une certaine partie de la foule qui était devant lui. Nous savons que Jésus n'était pas pauvre, nous l'avons étudié. Alors, que veut dire ce verset de 2 Corinthiens chapitre 8 ? Quand la Bible nous dit « Il s'est fait pauvre ».
Et bien,
ça va concerner ce qu'on appelle notre identification avec Christ.
Et c'est
ça justement que les gens ne comprennent pas. Ce verset ne concerne pas la pauvreté matérielle du fait que Jésus a vécu une vie de pauvre sur la terre. Mais cela concerne ce qu'on appelle notre identification avec Christ.
C'est-à-dire
que le fait que lorsque Jésus est mort à la croix, il a été cloué à la croix. Il y a un moment où il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et beaucoup de gens pensent simplement que le Père l'avait laissé, que Jésus était dans le désespoir, ne sachant plus quoi faire. Non, à ce moment-là, lorsque Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? À ce moment-là, Jésus est devenu ce que Galates 3.13 nous dit.
Galates
3.13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Lorsque Jésus est mort sur cette croix, et qu'il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'était ni plus ni moins un moment très particulier qui ne s'est passé qu'une seule fois dans l'histoire de l'humanité. La nature pécheresse de l'homme avec toutes ses conséquences a été transférée dans l'esprit de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus n'est pas mort comme un martyr, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis Jésus à la croix en disant « On veut se débarrasser de toi, tu es un malfrat. » Mais Jésus est mort comme un substitut. C'est-à-dire qu'il a pris notre place. Et lorsque Jésus a pris notre place à la croix, la Bible nous dit qu'il est devenu malédiction. Devenu malédiction. Et il nous a racheté à ce moment-là de la malédiction de la loi. À ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très particulier. Normalement, Jésus était intouchable par la mort. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que la mort a un pouvoir quand il y a du péché. Mais comme Jésus n'a jamais péché, et qu'il s'est donné lui-même. Rappelez-vous que plusieurs fois, on a attenté à la vie de Jésus. Une fois, il y a des Juifs qui étaient énervés contre lui. Ils ont essayé de le pousser d'une falaise. La Bible nous dit qu'il est passé au milieu d'eux sans qu'il touche. Jésus a été prévenu surnaturellement plusieurs fois. Quand il y a eu des dangers, quand il était en danger de mort. Et à chaque fois, Jésus n'a pas été touché. Parce que si vous lisez bien l'évangile, vous verrez que la Bible nous dit car son heure n'était pas encore venue. Et lorsque vous lisez l'évangile de Jean, vous verrez au bout d'un moment, avant la croix, Jésus va dire mon heure est venue. Et c'est là où il va expliquer qu'il va se donner lui-même.
Il
dira, personne ne note ma vie. Mais le Fils de l'homme donne sa vie. Parce qu'au moment où Jésus a donné sa vie, c'est-à-dire que la protection surnaturelle, il a dit maintenant, je ne veux plus cette protection surnaturelle. Rappelez-vous, quand on a arrêté Jésus, il y en a un qui avait un caractère impulsif, qui a sorti une épée et qui a coupé l'oreille d'un certain Malchus. Et Jésus lui a dit, mais tu sais, si j'avais besoin d'anges, je peux en appeler une dizaine de légions maintenant. Et ça, c'était très clair. Il y avait une protection surnaturelle. Pourquoi ? Parce que Jésus était sans péché. Tant que Jésus était sans péché, la mort n'avait pas le droit légal de le toucher. Au moment où il a dit, Maintenant, il est temps, après cette fameuse prière du jardin de
Gethsémané,
Jésus a su que c'était le moment où il devait se donner en sacrifice.
C'est
là où il va prendre notre place.
C'est
là où il va devenir ce que nous étions.
Pourquoi ?
Pour que nous devenions ce qu'il
est.
Donc la Bible nous dit dans
Galates,
le passage que nous venons de lire,
qu'il
est devenu malédiction. Non pas parce qu'il a péché,
mais
Jésus sur la croix n'a pas péché.
Mais
il a donné sa vie pour prendre notre
place.
C'est pour ça d'ailleurs que Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre
5
une petite phrase que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas.
2 Corinthiens 5 verset 21.
Là je vous explique très succinctement quelques bribes d'un cours que je fais à l'Institut biblique qui s'appelle « Notre identification avec Christ ». Dans lequel j'explique en détail exactement ce qui s'est passé à la croix.
Mais
regardez un petit peu ce que la Bible nous dit. Paul dit, 2 Corinthiens 5:21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. »
ngo umwe atigeze kumenya icyaha ku murongo wa 21 Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana.
La Bible ne dit pas qu'il est devenu pécheur.
Bibiliya ntitubwira ngo yahindutse umunyabyaha.
Parce que si Jésus était devenu pécheur, ça voudrait dire qu'il aurait péché.
Kuko yaza guhinduka umunyabyaha byasobanura ngo yarakoze icyaha.
Non, Jésus n'a jamais péché.
We ntiyigeze akora icyaha.
Ce verset concerne quoi ici?
Uyu murongo hano ugomba kuvuga iki?
Ça concerne la croix.
Il
l'a fait devenir péché.
Ou
si vous préférez, la nature du péché a été transférée dans l'esprit de Jésus.
La Bible nous
dit qu'il nous a racheté de la malédiction de la loi.
Étant
devenu malédiction. Par nature. Là, on parle de nature. On parle de malédiction, devenir malédiction. On parle de devenir péché. On parle de nature, de transfert de nature. On n'est pas en train de parler d'action qui fait que. Par exemple, quand quelqu'un agit mal, il est maudit. Et souvent dans la Bible, on voit des gens qui sont maudits à cause de leurs mauvaises actions. Cain était maudit à cause de son péché. Donc, il a péché. Et il a été maudit. Là, la Bible ne dit pas que Jésus a été maudit. Il est devenu malédiction. Il est devenu péché. Et on va voir la suite. Vous allez voir où je veux en venir. Ésaïe, chapitre
53.
Ésaïe, chapitre
53.
Nous connaissons tous ce merveilleux passage extraordinaire.
Ésaïe
qui reçoit. Ésaïe, c'est le prophète qui a eu le ministère le plus long au niveau prophétique de l'Ancien Testament.
C'est un
homme qui a vécu assez vieux.
Et
il a eu, je crois, pratiquement 60 ans de ministère. Et Ésaïe va recevoir, c'est le seul prophète de l'Ancien Testament qui reçoit autant de révélations sur la face cachée de la croix. Il ne savait pas, il ne comprenait pas.
Sept cents ans
avant la croix, Dieu va lui révéler les choses.
Et
la Bible nous dit dans une des épîtres de Pierre que ces prophètes qui avaient reçu certaines choses faisaient l'objet de leur investigation en essayant de sonder les temps et les moments.
C'est-à-dire
qu'ils se posaient des questions, ils disaient, mais Dieu me révèle des choses extraordinaires.
Est-ce
que c'est pour maintenant, tout de suite?
Ils
se posaient des questions, la Bible nous dit qu'ils ont prophétisé sur la grâce qui nous concernait, nous. Esaïe a reçu des prophéties incroyables. Mais qui n'étaient pas pour son temps. Qui étaient pour le temps où Jésus viendrait. Et depuis que Jésus est venu, c'est notre temps. Nous en avons le bénéfice.
Et
on peut vraiment louer le Seigneur pour ça.
Vraiment,
c'est extraordinaire. Dieu nous fait vivre des temps et des moments
absolument
fabuleux, d'être dans la grâce. Vous savez, ces prophètes-là, on pourrait faire une étude sur la vie de ces prophètes-là. C'était dur pour eux. C'était des combats terribles. C'était des gens, d'un seul coup, l'onction de Dieu leur tombait dessus. Et après, ils avaient de terribles attaques sataniques.
Et
ils n'avaient pas le nom de Jésus. Ils
n'étaient
pas nés de nouveau. Et croyez-moi, ils vivaient des moments difficiles. C'est pour ça que quand vous irez là-haut, vous leur direz merci. Amen, vraiment, ces gens-là, ils ont fait des choses extraordinaires. Ils n'étaient pas dans la grâce comme nous. Donc nous connaissons bien tous ce passage d'Ésaïe 53. On va lire à partir du verset 1. Qui a cru ce qui nous était annoncé ? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs dont il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé de Dieu et humilié. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il était maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Ensuite, Ésaïe va dire quelque chose d'absolument extraordinaire au verset 10. C'est traduit de la façon suivante, et c'est vraiment pas une bonne traduction. Il est dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Littéralement, le sens de ce verset en hébreu veut dire la chose suivante. La chose que Dieu pouvait agréer. Littéralement ici, dans l'hébreu, il est dit, c'était de le faire malade. Et là, Ésaïe était en train de prophétiser quelque chose. Le rachat de nos maladies par Dieu le Fils qui va mourir en sacrifice et en substitut. En résumé, Jésus a été fait malédiction à la croix pour que tu puisses hériter de la bénédiction. Et la Bible nous dit qu'il nous a racheté la malédiction de la loi. Et quand on cherche dans la Bible, nous allons lire cela tout à l'heure, cette malédiction concernait trois choses. Nous allons le voir dans Deutéronome 28. Une de ces choses, c'était la malédiction due au péché. Donc la séparation d'avec Dieu à cause du péché. Et c'est pour ça que Paul dira, il est devenu péché. Pour que nous devenions justice de Dieu, c'est-à-dire que nous puissions avoir un accès auprès de Dieu.
Ésaïe
dira, il a plu à l'Éternel, il a plu à Dieu de le faire malade. Est-ce que Jésus était malade sur cette terre? Non, il guérissait tellement de monde. Est-ce que vous avez vu Jésus avec une fièvre dans les évangiles? Ou un jour ne pas aller au boulot, entre guillemets, au boulot dans le ministère, dire, ah les gars, écoutez, Pierre et Jean, allez prier pour moi, je me sens pas bien. Non, Jésus n'a jamais été malade. C'est normal, la Bible nous dit que c'était le second Adam. Jésus avait un corps comme Adam. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait développer, mais je n'ai pas le temps ce soir. Et le troisième volet du rachat de la malédiction de la loi, c'est quoi? C'est la pauvreté. c'est la pauvreté.
Ubukene.
Et quand nous lisons 2 Corinthiens 8 au verset 9, ce que nous avons lu,
quand
la Bible nous dit qu'il est, s'est fait pauvre, ça ne parle pas du tout de la vie terrestre de Christ. Mais ça parle de la révélation. De ce qu'il a fait quand il a été cloué sur cette croix. Ça fait partie d'un des volets de, du rachat de la malédiction de la loi.
Péché,
maladie,
ingwara,
pauvreté.
N'ubukene.
C'est exactement ce que nous allons retrouver dans Deutéronome 28. Dieu, dans Deutéronome 28, va nous montrer ce qu'il avait dit à son peuple dans la loi. Les premiers versets de Deutéronome 28 vont définir la bénédiction de la loi. Et à partir du verset 15, jusqu'une bonne partie du chapitre, Dieu va parler de la malédiction de la loi. Et rappelez-vous, Galates 3:13 nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ayant été fait malédiction pour nous, afin que nous puissions hériter de la bénédiction d'Abraham. On va parler d'Abraham après. Nous allons parler d'Abraham. Mais d'abord, on va regarder quelle était la bénédiction de la loi et quelle était la malédiction de la loi. Il dit, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, c'est Dieu qui parle à son peuple d'Israël. À qui il avait donné la loi de Moïse. Il lui dit, voilà, si tu obéis, si tu mets en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations de la terre. La supériorité, ça veut dire l'influence dominante. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint comme il t'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre, tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le territoire que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, les rappeurs, ils devraient faire quelque chose. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Les rappeurs, ils loupent quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les rappeurs. Ils chantent des trucs bizarres. Mais il ferait mieux de chanter des choses scripturaires, ça serait mieux. Ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, quand tu les observeras, elle les mettra en pratique. Il manque de spiritualité, ces chanteurs. Il faut vraiment les aider et prier pour eux. Et que tu t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour te rallier à d'autres dieux, pour leur rendre un culte. Maintenant, regardez bien verset 15. Il va parler des malédictions de la loi. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans les villes et tu seras maudit dans la campagne. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail seront maudits. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi ou permettra, littéralement c'est ce qu'on appelle un temps permissif en hébreu, les malédictions, le trouble et la menace dans toutes tes entreprises jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes agissements et parce que tu m'auras abandonné. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle t'extermine du pays dans lequel tu vas entrer pour en prendre possession. L'Éternel te frappera de dépérissement ou permettra littéralement en hébreu, c'est un temps permissif aussi, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille et de niel qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera de bronze et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre, ou permettra encore. Il en descendra du ciel jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te mettra en déroute devant tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Tu seras un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel permettra, littéralement encore, que tu sois frappé de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales, de démangeaisons, et tu ne pourras guérir. L'Éternel encore permettra que tu sois frappé de délire, d'aveuglement, de déraison. Tu t'étonneras en plein midi, etc., etc., etc. Verset 44, tu prêteras, toutes les malédictions, verset 45, viendront sur toi et te poursuivront et t'attendront jusqu'à temps que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu pour observer ses commandements et ses prescriptions. Alors, quand on voit ici, vous pourrez lire tout. Si vous avez du mal à dormir la nuit, vous pouvez lire tout ça. C'est pas joyeux, hein. C'est pire qu'un film d'horreur.
Vous
voyez, et c'est ce que Dieu disait à son peuple. Et ça concerne différentes choses. Ça concerne clairement les conséquences du péché. La maladie. Et la pauvreté. La pauvreté. Et Dieu nous a rachetés en Christ de cette malédiction. De cette malédiction. Quand vous regardez les malédictions de la loi du côté matériel, vous trouvez que tout ce que le peuple ferait ne prospère pas. Parce qu'il n'y a pas la paix, parce qu'il y a la domination des ennemis, parce que tout ce que tu entreprends, ça se casse la figure, etc., etc., etc. Et la Bible nous dit, nous avons été rachetés de ça.
Ah,
tu vas me dire, oui, mais moi, pasteur, si tu savais les galères financières dans lesquelles je suis. C'est intéressant, justement. Ce qui va être très intéressant maintenant, et c'est pour ça que je vous fais cet enseignement, c'est pour vous montrer le premier pilier qui est très important au niveau de la prospérité. Nous allons découvrir qu'il y a cinq piliers très importants qui vont nous permettre de prospérer. Je vous ai dit et je vous le redis, il
n'y
a pas de petits trucs secrets, de petits trucs où d'un seul coup les situations changent du jour au lendemain. Mais il y a des principes sur les lois spirituelles que nous pouvons connaître et appliquer. Le premier de ces principes que nous sommes d'ailleurs en train d'étudier pour la prospérité, d'abord, c'est la connaissance de la parole. C'est le premier pilier indispensable. Sans connaissance, tu ne peux pas savoir quel territoire tu peux posséder. Le deuxième principe que nous allons étudier sera le principe de semer et de récolter. Nous étudierons ce principe. Je vous expliquerai, je vous illustrerai ces principes. De telle façon que vous compreniez ce principe qui est un principe fondamental et important. C'est un des plus importants, mais ce n'est pas le seul. En troisième lieu, je vais vous expliquer le principe de la foi. Je vous montrerai comment vous devez parler sur vous-même et vos situations financières. Même au milieu de la tempête. Pour que vous appreniez à dominer par rapport à cet outil que Dieu vous a donné, vos finances. Le quatrième principe que nous allons voir, c'est le principe du travail d'excellence. Parce que Dieu ne vous fera jamais prospérer si vous n'avez pas une mentalité de travail excellent.
Vous
ferez des expériences si vous semez dans le royaume de Dieu. Vous ferez des expériences si vous parlez la parole de Dieu.
Mais
si vous n'avez pas une mentalité d'excellence pour le travail, au bout d'un moment, vous risquez de monter et de redescendre.
Et de vous retrouver
avec certains problèmes.
Et
le cinquième principe que nous étudierons, c'est le principe de la gestion. Je rajouterai un qualificatif de l'excellente gestion. Parce qu'on peut des fois être béni par Dieu et tout perdre parce qu'on ne sait pas gérer. Et on se retrouve par terre et on se fait avoir bêtement par des trucs simples de la vie. Ce sont cinq piliers de la grâce que nous avons pour pouvoir prospérer. Et ce sont des piliers qui sont absolument indispensables à connaître. La plupart du temps, les gens qui enseignent sur la prospérité enseignent seulement sur le principe du donner et du recevoir. C'est un grand principe de la prospérité. Mais franchement, j'ai pu largement voir qu'on peut appliquer cela. Et je dois le dire, nos frères et sœurs américains abusent un peu trop là-dessus. Je dois le dire. Il y a beaucoup de gens qui prêchent et qui disent seulement de donner, de semer, de donner, de donner, de donner, de donner, de donner.
Et
il y a un témoignage sur un million où quelqu'un d'un seul coup va vivre un miracle financier, comme la petite veuve qui, la veuve du prophète qui était complètement désespérée et Dieu a fait un miracle pour elle. Et ça, je trouve ça un peu abusif parce qu'on va vous donner un témoignage sur un million. Et je crois qu'il y a des principes que Dieu nous donne qui sont de bons principes, d'excellentes choses que nous pouvons mettre en pratique. Parce que rappelez-vous ce que Salomon a écrit. Salomon a écrit vraiment quelque chose d'important dans Proverbe 16. Dans plusieurs proverbes, Salomon va écrire des choses à propos justement des finances. Et souvent, là encore, c'est lu avec des lunettes stupides, des lunettes de la religion. Les lunettes de la religion, c'est les lunettes les plus stupides que vous pouvez acheter. Il ne faut pas les acheter,
celles-là.
Et on verra que Salomon a appliqué d'ailleurs ce principe sur lequel il a écrit ici. Nous verrons que Salomon, ça a été l'homme le plus riche qui n'a jamais existé sur cette terre. Proverbe 16, verset 16 nous dit « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent ?» Ici, on parle de la sagesse et de l'intelligence. Ce sont deux mots qui sont très importants. L'intelligence, selon la parole de Dieu, c'est comprendre comment Dieu fonctionne. C'est-à-dire d'acquérir les mentalités divines, en être tellement imprégné que tu penses comme Dieu pense. Tu vas me dire, est-ce qu'il est possible de penser comme Dieu pense? Il me semble que Dieu a mis sa parole et sa parole, c'est sa pensée qui s'est exprimée, me semble-t-il. Donc si tu ajustes tes pensées sur la parole de Dieu, ça veut dire que tu penses comme Dieu pense. Et c'est souvent ça qui est difficile pour nous, parce que souvent, le monde nous ramène dans ses pensées. Le naturel, les raisonnements nous ramènent dans leurs pensées.
Et
acquérir de l'intelligence, c'est acquérir la mentalité de Dieu. De tellement s'en imprégner que tu commences à entrer dans les dimensions divines. Et c'est là ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ensuite, bien sûr, le proverbiste, donc Salomon, nous parle d'avoir la sagesse, d'acquérir la sagesse. La sagesse, ça va être appliquer la connaissance en étant inspiré par Dieu.
C'est-à-dire
que tu as une connaissance divine et tu sais d'une manière pratique comment amener cette connaissance à produire des résultats divins.
Donc,
tu as acquis cette connaissance divine, mais tu sais comment, dans toutes les situations, appliquer cette connaissance pour obtenir des résultats divins. Oh, c'est bon comme définition. Les résultats divins. Parce que tu peux connaître la parole de Dieu et te planter complètement dans ta vie. Ne pas produire et d'avoir des résultats divins. L'acquisition de la parole de Dieu est indispensable pour changer nos mentalités. C'est l'intelligence divine. La sagesse va être d'arriver dans les différentes situations auxquelles tu as à faire face, d'amener à produire les résultats divins.
Les
changements de situation, changement de contexte, toutes sortes de choses qui seront transformées parce que tu sais comment faire. En appliquant ce que tu connais de Dieu. Alors, quand les gens lisent ce genre de proverbe avec les lunettes de la religion, ils se disent, ah Dieu, je vais être intelligent et sage.
Et
je serai bien pauvre.
Parce que
tu dis ce qui est précieux, c'est seulement l'intelligence et la sagesse.
Bah,
lis Proverbe 24 maintenant. Si tu veux un peu de plomb dans la tête, comme on dit si bien en français, c'est-à-dire savoir comment gérer ta vie, il va falloir que rapidement, surtout les jeunes, que vous acquériez de la sagesse. Parce que les jeunes parlent beaucoup, mais ils ne payent pas souvent la facture de régie des eaux. Ça, pour parler, ils sont forts.
Pour
s'asseoir et parler. Moi, si j'étais lui, j'aurais fait ça.
Chapitre 24,
Proverbe. N'envie pas les hommes mauvais et ne désire pas être avec eux. Car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres causent de la peine. Alors là encore, les religieux lisent toujours la chose suivante. Ah, ces sales pécheurs. Ce sale pécheur, il a encore construit un immeuble à 6 étages. C'est vrai, mais si tu es intelligent et que tu es sage, tu pourras en construire un à 10 étages et élever des mains pures devant Dieu. L'intelligence selon Dieu, ce n'est pas de t'occuper de ce que les pécheurs font, c'est exactement ce que le proverbe nous dit ici.
C'est-à-dire,
passe pas ton temps à faire. Passe pas ton temps à regarder les gens mauvais. Et à dire ils sont mauvais, tu vois, etc. Mais passe ton temps à être productif. Passe ton temps à être productif. Crois-moi, tu vas découvrir des choses extraordinaires. Le secret de la vie avec Dieu, ce n'est pas de s'occuper des mauvaises choses. C'est de s'occuper de son royaume et de savoir comment, avec son royaume, on peut faire avancer les choses de Dieu. Ne concentre pas ton énergie sur des choses inutiles. Mais concentre ton énergie vers des choses profitables pour le royaume de Dieu. Je t'assure, tu vas t'épanouir rapidement dans ta vie si tu fais ça. Tellement de gens passent du temps à raconter des choses qui ne servent à rien. Plutôt que de s'occuper, de se dire qu'est-ce que je peux faire d'intelligent et de sage. Regardez ce que la Bible nous dit ici. Car c'est par la sagesse qu'une maison se construit, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit, c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de puissance, et celui qui a de la connaissance accroît sa force.
Kumurongo wa gatatu ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi ubukerebutsi nibwo burukomeza guca ubwenge niko kuzuza inzu zo murigo ubutunzi bwose bw'igiciro kinini kandi bw'igikundiro umunyabwenge abu w'inkomezi bera umuntu aciye ubwenge yunguka ubushobozi.
En associant mentalité divine
ufashe ubwenge bw'Imana
avec façon de savoir comment faire pour produire les résultats divins, tu vas produire des choses spirituelles, mais tu vas aussi produire des choses matérielles. Ce que la Bible nous dit dans tout ça, c'est que l'important, c'est d'acquérir cette mentalité de Dieu, de savoir comment la mettre en application pour produire les résultats divins, et le reste, c'est un produit dérivé. C'est pour ça que Jésus disait dans Matthieu 6,
cherchez
d'abord le royaume et la justice de Dieu.
Et
tout le reste vous sera rajouté. Ne cherchez pas le reste. Ne cherchez pas les biens. Cherchez intelligence et sagesse. Vous amènerez plein de gens au Seigneur. Vous aurez des relations élevées et puissantes. Et vous serez influent financièrement. Conséquence. Non pas recherche. Et c'est là où les chrétiens plasment leur recherche. Ils sont là en train de chercher des choses, la prospérité. Commence à chercher la mentalité de Dieu. Apprends à savoir comment tu dois mettre en application tout cela pour produire les résultats divins. Le résultat sera tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est exactement ce que les proverbes nous disent. Donc, jamais Dieu n'a été contre la prospérité. Le problème, c'est que les gens mettent les choses à l'envers. Et quand on met les choses dans le désordre, avec Dieu, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas su faire. Et ils se retrouvent dans l'échec. C'est pas compliqué. Je suis en train de vous expliquer les principes très simples du royaume. Mais je vous garantis, ces principes, quand vous les mettez en application, les choses sont simples. Elles sont puissantes. Et derrière vous, vous sentez la puissance du royaume de Dieu. Et vous marchez d'étape en étape. Votre caractère se forge. Et vous marchez de mieux en mieux dans les dimensions de Dieu. Sans être en train de pousser, de tirer, de dire « oh Dieu, fais ça pour moi, tu vois là ce qui se passe. » Tu n'es plus parmi les pleureurs et les pleureuses. Vous savez qu'en Israël, on louait les pleureuses. Quand il y avait un deuil,
il y avait
des femmes qu'on payait et qui venaient au deuil et qui faisaient elles étaient payées pour ça. Débarrasse-toi de cette mentalité. Apprends. Apprends du royaume. Intelligence et sagesse. Et les conséquences. C'est tout le reste. Ça sera une conséquence. Tu
n'as
pas besoin de paniquer par rapport à ça. C'est une conséquence.
Et
tu vas devenir ultra productif dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se verra la semaine prochaine.